Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Double Voix, le podcast qui met à l'honneur ces Lyonnais et Lyonnaises qui changent le monde, qui changent notre monde. Je suis Julien Verchère en duo avec Stéphanie Borg pour cette émission coproduite par Rhône Express et Tout Lyon, notre média lyonnais. Il a crevé l'écran en 2009 en sortant vainqueur de la première émission d'un dîner presque parfait sur M6, poursuivant l'aventure des concours culinaires avec Top Chef en 2010. Depuis, il multiplie les projets, mariant passion de la cuisine et volonté d'entreprendre, le tout agrémenté d'une pincée de sel médiatique. Né sans avant-bras gauche, ce Lyonnais d'origine s'est aussi posé comme un défenseur de l'inclusion et de l'intégration des personnes handicapées au sein de la société. Sans plus attendre, rejoignons Grégory Cuiron sur le quai du Rhône Express à la Part-Dieu, qui nous attend, détendu et souriant, pour un voyage d'un peu moins de 30 minutes. Double Voix épisode 9, c'est parti.
Bienvenue à bord de Rhône Express, à destination de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry.
Welcome aboard Rhône Express in direction of Lyon-Saint-Exupéry Airport.
Grégory Cuiron, bonjour.
Bonjour Stéphanie Borg.
Nous allons passer un petit moment ensemble, l'occasion de gentiment vous cuisiner. À ce propos, quel est votre premier souvenir culinaire, sucré ou salé ?
Alors très étrangement, mon premier souvenir culinaire, enfin de moi cuisinant du moins, c'est du sucré. Alors je n'ai jamais été très porté sur le sucré, qu'il s'agisse de goût ou de réalisation. Et c'était une tentative de gâteau de semoule. J'avais dû voir une publicité à la télé qui m'inspirait. J'ai voulu reproduire ça sans cuisson, à l'aide d'une fourchette, de papier alu. Et je me souviens que j'avais amené ça à la maîtresse. C'était purement dégueulasse, mais qu'elle s'était forcée à goûter. Voilà, je crois que c'est un de mes premiers souvenirs de moi faisant la cuisine.
Et de ce vous faisant la cuisine, comment vous êtes arrivé à ce vous d'aujourd'hui, ce chef cuisinier, mais pas que ?
C'est une bien grande question. J'ai un de vos collègues un jour qui... C'était une des premières interviews que j'ai données à la suite du dîner presque parfait, le combat des régions, qui me... fort aimablement, il m'avait interviewé. Je lis l'article et ça commence par... Après un parcours de vie chaotique, je me dis, mince, quand même. Non, c'est pas chaotique. Je pense que chaque étape mène à la suivante et je me suis construit ainsi, mais c'est sûr que c'était pas linéaire, c'était pas ce qui était prévu. Je suis plutôt content. J'ai pas tellement de regrets quant à ce que j'ai pu faire pour en arriver là et j'aimerais pas particulièrement être ailleurs. Alors il y a plein de choses qui peuvent être mieux, mais sans être dans l'auto-contentement, je suis content d'en être là. Et ouais, il s'est passé plein de trucs, mais on va voir ça ensemble, j'imagine.
Alors, dites-nous un petit peu les grandes étapes de ce parcours pour voilà, quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, qui ne regarde pas la télé, qui n'aime pas la cuisine. Mais alors, qui êtes-vous ? Comment vous présentez à des inconnus s'il en reste ?
Alors, quand je me présente, donc Grégory Cuiron, lyonnais, 43 ans, cuisinier, pas trop le terme de chef, je suis chef de personne, j'aime bien, je suis cuisinier parce que j'aime transformer les aliments. Ben moi, j'ai commencé par un cursus scolaire assez classique, bac scientifique. Ensuite, j'ai voulu être médecin militaire, mais mon bras m'a empêché de passer le concours. Donc ça m'a un peu enquiquiné sur le moment. Mais j'avais un plan A prime qui était de faire du droit, donc ce que j'ai fait. Et après un doc de droit, je me suis dit que c'était pas pour moi. J'ai été un peu blasé par le droit public, c'était pas mon truc ça. Et du coup, j'ai enchaîné sur du concret. J'ai fait un BTS en alternance. Puis je suis parti aux États-Unis pendant 9 mois pour me faire un auto-Erasmus et découvrir une autre culture. Alors c'était le Texas, c'était en 2005, donc on avait refusé de retourner faire la guerre en Irak. Et du coup, c'était sur les magasins des autocollants, no dog, no French, des gars qui sont armés à hauteur de 60% de la population. Donc j'ai très vite pris l'accent, mais j'ai passé un très bon moment, c'était chouette, c'était le Deep South Texas. Et puis de retour, encore un peu de communication marketing à la fac, et puis le boulot. Là, j'ai quand même, comme par hasard, commencé ma carrière en tant que responsable de la communication dans un établissement étoilé à Lyon. Parce que la cuisine, même si j'en parle pas là comme ça, elle a toujours été là en filigrane. Parce que j'ai toujours aimé manger. Et que finalement, cuisiner, c'était un moyen et pas une fin au départ. Et puis, à force, j'ai fini par encore plus aimer cuisiner que manger. Et voilà, par le truchement des concours de cuisine, je me suis retrouvé à en faire un métier, ce qui n'était pas du tout, mais pas du tout prévu au départ.
Justement, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes formé aussi à la cuisine ou vous êtes ce qu'on appelle un autodidacte, si on peut appeler ça comme ça ?
On peut appeler ça un autodidacte et c'est ce que je suis. J'ai vraiment appris sur le tard. Alors, au fur et à mesure de mes apprentissages d'apprentis sorcier cuisinier chez moi dans ma cuisine alors que j'avais une autre vie à l'époque. Et puis, bah, pour moi, Top Chef, ça a été un peu une post-formation. Il a fallu apprendre vite. Puis à la sortie de Top Chef, j'ai eu des restos. Bon, j'étais associé parce que j'étais conscient de ne pas pouvoir pratiquer tout seul à ce moment-là. Et moi, je pense qu'il m'a fallu pas loin de 10 ans après Top Chef pour vraiment que je m'estime cuisinier. Et là, maintenant, ouais, je suis dans, alors sans prétention aucune, mais dans la maîtrise de ce que je fais. Je pense qu'il vaut mieux goûter ce que je fais maintenant que ce que je faisais il y a 13 ans maintenant.
Est-ce qu'il y a un gap entre la cuisine à la maison et l'exigence du restaurant ?
Bien évidemment qu'il y a un gap entre la cuisine à la maison et l'exigence du restaurant, parce que c'est pas parce qu'on cuisine bien à la maison pour 5 personnes qu'on peut tenir un restaurant. Il y a des règles, déjà, des règles d'hygiène qu'il faut connaître. Il y a un calcul de food cost, parce qu'on peut avoir un restaurant rempli. Si on sait pas compter, on perd de l'argent, et ça, c'est pas bien. Il y a une dimension managériale, parce que c'est bien beau de faire la cuisine tout seul, mais après, il faut entraîner les autres avec soi et définir des objectifs communs. Et puis, le travail n'est pas le même. Là, on va cuisiner pour faire plaisir à ses amis. Et en fonction de ce qu'on va faire, on prendra le temps nécessaire. Là, on a un temps imparti. Et dans ce temps imparti, les gens, ils ne vont pas rester 4 heures à table. On n'est plus au 19e siècle. Donc, il faut redoubler de vigilance pour faire en sorte que tout le monde puisse manger dans les temps. Donc, du stress, enfin, plein de choses à gérer.
Vous avez donc été associé dans 2 restaurants que vous n'avez plus, ou vous n'êtes plus un chef, on va dire, opérationnel. Pourquoi vous avez arrêté ce côté restaurant, en fait ?
J'ai pas arrêté. Hein. J'en ai encore un que j'ai depuis 8 ans, le 5 mains, avec mon petit frère, un troisième associé, où je suis pas souvent, mais qui reste mon restaurant. J'ai eu 2 restaurants à Sainte-Foy-les-Lyon. À un moment, j'en ai plus eu, parce que j'avais envie de passer un peu à autre chose. On n'avait pas la même vision des choses avec mes associés. Donc il était temps de faire autre chose. Et puis finalement, ça m'a quand même un peu manqué. Donc j'ai ouvert le 5 mains avec mon frère Thibaut et Antoine, notre associé, en 2015, un 8 décembre. Pour un Lyonnais, c'est important comme date. Et depuis lors, j'ai aussi ouvert un deuxième resto dans un hôtel. J'ai créé un resto pour un hôtel rue Gasparin en 2018. Là, j'y suis plus. Mais ça a été très intéressant de mettre tout ça en branle. Et voilà, ouais, si, j'ai le 5 mains, mais moi, j'ai pas besoin d'être agent de cadre dans un restaurant. J'aime bien la transversalité. Et si j'étais tout le temps attaché à ma cuisine, je pourrais pas être ailleurs. Et j'aime bien être un peu de partout. C'est pas que je suis éparpillé, c'est que j'ai besoin de me nourrir de différentes choses.
Du coup, c'est ce qui vous plaît, c'est la multiplication des projets qui se superposent un petit peu.
Alors, oui, multiplication, sachant que, encore une fois, faut pas se disperser. J'essaye d'avoir plusieurs choses différentes, plusieurs cordes à mon arc et plusieurs types d'activités, mais j'essaie de ne pas me disperser. Alors parfois, il faut étendre, spread, répandre, comme on dit en anglais. Et parfois, il faut réunir ce qui est épars et essayer d'avancer. Donc c'est vrai que j'ai souvent plusieurs projets au feu, tout en sachant très bien que tous n'iront pas forcément à leur terme, mais on est obligé de planter plein de graines pour qu'il y en ait certaines qui puissent germer.
C'est un petit côté, c'est ce côté entrepreneur, pourrait vous définir comme ça aussi.
Moi, ça me plaît bien l'entrepreneuriat, même si c'est un mot qui a été peut-être un petit peu galvaudé. Et puis maintenant, on est entre. Pour moi, entrepreneur, c'est quand même monter un business qui marche. On a l'impression parfois qu'être entrepreneur, c'est monter des business et courir après l'argent pendant 10 ans. Non, ça, c'est pas être entrepreneur. Moi, j'ai un côté un peu artisan. Donc, pour moi, l'artisanat, c'est de l'entrepreneuriat, mais on doit répondre à une attente. Et ça doit être quelque chose qui marche. Mais ouais, je suis entrepreneur dans la définition qu'on peut en donner à l'heure actuelle.
On a l'impression aussi qu'on vous sollicite beaucoup, on vous entend beaucoup, vous partagez beaucoup de recettes dans des émissions. Et on se demandait, par rapport à ce côté un peu star, un peu star system, est-ce que vous n'avez pas peur d'être enfermé dans cette image ? Est-ce que justement cette multiplication des projets, elle vous permet aussi de nous montrer que vous n'êtes pas que cette image à la télévision ?
Alors je ne suis certainement pas que cette image à la télévision. Maintenant, je pense que j'ai suffisamment de recul Voilà, Top Chef, c'était... Enfin, le dîner presque parfait, c'était il y a 14 ans. Top Chef, c'était il y a 13 ans. C'est vrai qu'à un moment, j'ai pu me sentir un peu enfermé là-dedans. Et puis, j'étais un peu l'éternel candidat. On met le pagaie dans la rue. Beaucoup de personnes m'ont appelé Top Chef dans la rue. Alors là, je faisais comme si j'entendais pas. Parce qu'au bout d'un moment, je trouve ça un peu... Voilà, qu'on vient de me parler, je trouve ça très sympa. Qu'on me siffle en disant hey, « Top Chef, c'est pas trop mon truc ». Non, alors ces projets, je les mène pas pour prouver aux gens quoi que ce soit. Je les mène parce que ça me fait plaisir. C'est même pas pour me prouver à moi-même. Alors bon, c'est peut-être toujours un peu pour se prouver des choses, mais je vois plus ça comme quelque chose de ludique. C'est vrai qu'à une époque, j'ai eu l'impression d'être uniquement en demande entrante, c'est-à-dire que les gens me proposaient des choses, ils disaient, je validais oui ou non, et j'allais là-dedans. J'ai eu un besoin à un moment qui était de plus reprendre la direction de ma vie. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Moi, je suis à peu près une crise de quarantaine toutes les années, donc tout va bien, et depuis bien avant 40 ans. J'ai toujours envie de tout envoyer valdinguer, de partir élever des chefs dans le Larzac, puis je me rends compte que finalement, j'ai juste besoin de petits ajustements dans ma vie. Maintenant, je définis plus un point à l'horizon en me disant « je veux aller là ». Avant, on me disait « bah tiens, est-ce que tu veux venir avec nous monter sur notre bateau ?» Ouais, maintenant, c'est moi qui gère le vieux gréement que je suis désormais.
Du coup, là, en ce moment, vous voulez aller où ?
Alors là, j'ai un projet, donc ça fait longtemps que je fais l'apologie de l'emploi des personnes en situation de handicap, et on est en train de travailler sur un projet avec un ami, un peu autour de l'alimentaire, mais avec une dimension un peu industrielle, et pour faire travailler des personnes en situation de handicap.
C'est aussi pour ça, entre guillemets, qu'on vient vous chercher. Vous êtes une voix désormais qui compte dans la question de l'handicap, de l'inclusion des personnes handicapées. Si on devine votre engagement, est-ce que c'est pour autant une évidence ?
Alors, pas du tout. C'est pas du tout une évidence. Alors déjà, parce que, comme j'ai coutume de dire, je suis devenu handicapé 27, 28, 29 ans au moment des passages télévisuels. Alors, j'avais conscience de mon handicap. Moi, c'est de naissance, c'est une agénésie du membre supérieur gauche. C'est vrai qu'une fois sur deux, j'oublie de l'évoquer quand je me définis, enfin, quand je fais ma carte d'identité. Oui, c'est vrai que si on est comme ça, uniquement sur les ondes, on peut pas le voir. Donc, j'ai mon coude, mais j'ai pas de main gauche et pas la moitié de l'avant-bras. Cette médiatisation m'a permis de plus me rendre compte du regard qu'autrui pouvait porter sur le handicap. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes en situation de handicap et de leur famille, de leur entourage, qui me disaient « Ah, grâce à vous, on se rend compte que soit on peut faire quelque chose, soit que notre neveu, notre frère, notre fils peut faire quelque chose de sa vie. » Et je ne vous cache pas que dans un premier temps, ça m'a un petit peu horrifié. Je me suis dit bah, « S'il faut voir un mariole à la télé pour se rendre compte que voilà, quelqu'un de son entourage est capable de faire quelque chose. » Puis après, j'ai un peu réfléchi et je me suis mis à la place de ces personnes et je me dis que ça devait être une grande peine pour enfin, gérer son handicap, c'est une chose, gérer celui d'autrui, c'est compliqué. Et puis le handicap fait peur parce que la différence fait peur en règle générale. À partir de ce moment-là, quand j'ai compris, j'ai eu plus de meilleures intentions à l'endroit de ces gens-là. Je parlais pas des personnes handicapées, mais de l'entourage. Et ils m'ont fait un petit peu de la peine, quelque part, et je me suis dit que, d'une manière ou d'une autre, il y avait peut-être quelque chose à faire. Et même si c'est à la marge, même si c'est peut-être essayer d'améliorer la vie d'une personne de par ce qu'on peut dire, ça reste des paroles, je trouve que ça, c'est vachement enthousiasmant que de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas le faire, donc avoir un peu voix au chapitre, toute proportion gardée, hein, ça n'engage que ceux qui m'écoutent, et je ne pense pas qu'ils soient nombreux, mais bref, j'ai pas de mal à porter le message en tout cas, et je trouve ça chouette.
Ça vous a fait du bien d'écrire un livre aussi ?
Ça fait longtemps que je voulais l'écrire. Enfin, j'en ai écrit 3 de recettes, ça c'est autre chose.
Beaucoup de livres de recettes.
Ouais. Et ouais, avec Alexis, ouais, j'avais envie. En fait, je l'explique dans l'ouvrage, l'élément déclencheur, c'est une querelle sur Facebook, sur un groupe auquel j'appartiens, de personnes qui sont comme enfants, qui dépendent d'une association, et des parents qui voulaient faire un procès au gynéco, ou je sais plus, au radiologue qui n'avait pas vu sur l'écho que leur enfant avec une main, ils auraient fait quoi, ils l'auraient mis à la poubelle. Alors, on a besoin peut-être de trouver un coupable, je tentais qu'il y ait besoin de trouver un coupable, mais voilà. Mais entre les personnes en situation d'handicap et certaines autres personnes qui étaient des aidants, il n'y avait pas forcément la même vision des choses. Et c'est vrai que Moi, si mes parents m'avaient dit, bah tiens, quand t'es né, on allait faire un procès au radiologue, je me suis dit, c'est pas très sympa, quoi. c'est commencer sur un mauvais pied. Donc, voilà. Je me suis dit, il y a peut-être des choses à dire. C'est bien de. Alors, je révolutionne pas le truc, je donne mon avis et je parle de mon parcours. C'est pas ma vie, mon œuvre non plus, mais en fait, au travers de mon expérience, j'ai voulu aborder certaines thématiques qui étaient le sport et le handicap, l'amour et le handicap, le travail et le handicap, la famille et le handicap. J'en passe et des meilleurs.
Alors justement, on passe pas très loin du Groupama Stadium. Vous parlez de sport, c'est aussi l'une de vos passions, je crois. Pendant les JO de Rio, d'ailleurs, vous avez marié cuisine et sport dans une émission. Est-ce que vous pourriez être prêt pour ce mariage des saveurs pour les JO de Paris?
Alors, pour tout vous dire, on en discute là pour les JO de Paris 2024 pour faire des choses, mais... Il y a beaucoup de politique et pour l'instant tout n'est pas dépatouillé, donc j'attends de voir si on va me prendre ou pas, mais moi j'aimerais beaucoup, et surtout sur les Paralympiques. J'ai contacté 2-3 personnes en disant qu'il serait peut-être de bon ton qu'il y ait des cuisiniers handicapés pendant les Paralympiques, hein, il n'y a pas de raison. Là je joue un peu pour ma paroisse, parce que je pense que je dois être à peu près le seul dans le paysage, donc... mais j'aime bien, et puis ouais, j'adore le sport. Alors j'aime beaucoup le football. Mais j'aime surtout l'Olympique Lyonnais.
Vous n'avez pas trop mal au cœur en ce moment?
C'est très très compliqué pour moi. Les lundis sont difficiles, hein. Les lendemains de match, ça me met touche à foin pour la semaine. Mais c'est ça l'amour, hein. On est là dans les bons et les mauvais moments. On espère qu'on retrouvera un jour les bons, parce qu'en ce moment c'est un peu noir. Et puis c'est vrai que le sport en général, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'en ai un peu fait moi j'aime bien la compète, donc j'en ai un peu fait plus jeune, surtout du judo, et puis là je continue à en faire, parce que quand on a 43 ans et si on veut pas finir avec une bouée, c'est bien d'en faire, puis surtout ça me défoule. Je suis un peu nerveux comme garçon, donc j'aime bien faire des trucs qui me défoulent.
Et d'ailleurs, vous aimez tellement l'OL que je crois que vous aviez créé un sandwich spécial pour les mi-temps.
On a créé le sandwich chionnais avec Jean-Christophe Ambert, qui est un metteur en scène et comédien que les gens ont dû voir dans Kaamelott et qui a fait la mise en scène de Kaamelott, c'est celui qui joue Caradoc, qui n'arrête pas de manger dans la série. Et oui, on s'était dit qu'il manquait des traditions dans ce nouveau stade, les traditions qu'on pouvait avoir à Gerland avec la merguez à Rodriguez ou des choses comme ça. Et donc on a fait le sandwich chionnais. Alors on n'a pas... Un jour, un chef cuisinier dont je tirais le nom est venu me voir en disant « Mais c'est moi qui l'ai inventé !» Bon, on a mis 3 tranches de saucisson à cuire entre 2 tranches de pain avec de la sauce au Saint-Marcellin et une fondue d'oignon. On n'en revendique pas non plus l'hyper-paternité, mais on avait envie d'avoir un truc typique et bien de chez nous.
Vous parliez de compétition, vous avez l'air d'aimer les challenges. Du coup, c'est vachement compliqué d'être porteur d'un handicap dans la cuisine. Vous disiez, il n'y en a pas beaucoup, vous mettez la barre haute quand même.
Je vois pas trop les choses comme ça. C'est-à-dire que pour moi, j'ai envie de faire un truc, handicapé ou pas, voilà, on avance. Et puis, si j'étais pas capable de le faire, je me serais arrêté au bout d'un moment. Mais j'aime bien quand même avoir le droit de pouvoir essayer. Une fois que tu t'es planté... Là, les gens peuvent te dire, tu vois, c'est peut-être pas pour toi. Qu'on le dise a priori, c'est des choses, moi, ça me gonfle. Je fais pas de la cuisine pour prouver qu'avec une main, on peut faire de la cuisine. Je fais de la cuisine parce que j'ai envie d'en faire et j'ai pas envie qu'on m'emmerde parce qu'il me manque une main. Voilà, c'est ça le truc.
Est-ce qu'il y a d'autres engagements aussi que vous avez? Vous êtes en dehors de la cuisine, de tous vos projets. Est-ce qu'il y a des choses aussi qui vous tiennent à cœur?
J'adore l'histoire et j'habite dans le Vieux-Lyon et j'ai mon resto dans le Vieux-Lyon. Je suis très attaché au patrimoine et à la préservation de celui-ci. J'ai eu la chance de bien connaître Annie et Régis Néret, grâce à qui il y a eu la promulgation de la loi Malraux en 54, je crois, ou un peu plus tard, non, oui, ça doit être ça. Qui sauvegarde les différents lieux historiques qui méritent d'être sauvegardés, c'est-à-dire qu'on œuvre pour la réhabilitation plutôt que pour la destruction. Alors c'est vrai qu'on, dans le cadre du Vieux-Lyon, c'était une perspective dans les années 60, 70, 50 d'hygiénisme, où c'était des quartiers insalubres. On se disait vaut mieux tout raser et faire un joli quartier comme les gratte-ciels à Villeurbanne. J'aime bien les gratte-ciels, mais je suis bien content qu'on ait préservé le Vieux-Lyon. Donc oui, l'histoire, la préservation du patrimoine, la transmission sont des choses qui m'intéressent. Et je suis par ailleurs également un très gros lecteur. J'adore lire. C'est marrant, je crois que je n'ai pas touché un bouquin jusqu'à mes 28 ans environ. Et maintenant, j'en lis un par semaine. Et c'est mon truc, c'est mon petit, mon petit jardin secret, dirons-nous. Et puis en termes d'engagement, ouais, non, je sais pas, je fais des trucs autour du handicap, enfin, trois trucs, quoi.
Du coup, ça vous plaît aussi de faire des livres de cuisine ?
Moi, j'aime bien faire des livres de cuisine. Le problème, c'est que maintenant, y a tellement de gens qui font des livres de cuisine que les maisons d'édition, ils veulent tout qu'on fasse à compte d'auteur. Donc, bon, ou alors, il faut que je trouve une très très bonne idée. Moi, si je devais faire un livre de cuisine, là, ce serait un livre de recettes végétariennes. Je suis pas végétarien pour deux sous. J'essaie de faire attention, comme tout à chacun, et de manger moins de protéines animales. Mais je pense que c'est un véritable enjeu et que surtout, en France, on part avec un fil à la patte parce que on a une cuisine qui, enfin, pendant longtemps le végétarisme c'était on vous met un fagot de haricots et le gratin dauphinois, quoi, alors qu'il y a une vraie manière de penser les plats végétariens qu'on retrouve plus dans les cuisines asiatiques, sud-américaines et nord-africaines.
Néanmoins, qu'est-ce qui vous inspire dans la cuisine?
Bah, les voyages un peu, ça j'aime bien, et puis plus on avance, plus on est pur. Et plus on se rend compte qu'on veut toujours être plus créatif que les autres et tout, et qu'au bout d'un moment, passez-moi l'expression, mais c'est un peu de la branlette, quoi. Je trouve que c'est bien Enfin, la tradition, ça a du bon. Faut pas être non plus avec des œillères et être que dans la tradition, mais il y a des choses qui se font bien et qui se font pas par hasard. C'est un peu comme en architecture. On s'est rendu compte, comme par hasard, que finalement, c'était mieux d'orienter une maison est-ouest. Ça a été fait pendant des siècles, puis au début du 20e, on s'est dit, bah non, on est plus malin que les autres, on va orienter au nord. Et bah là, c'est un peu pareil pour la cuisine, on se rend compte finalement qu'il y a plein de choses super qui ont été faites déjà en amont. Moi, j'ai beaucoup de très vieux bouquins de cuisine. Quand je parle de vieux bouquins, c'est 16e, 17e. Et déjà, à l'époque, les gars mélangeaient les huîtres, la betterave, ils faisaient des terres-mères. Donc voilà, un peu d'humilité, un peu d'épure, et puis aller chercher aussi ailleurs, parce que... Il y a des trucs rigolos, et c'est vrai que je pense que la mixité a du bon en toute chose, et en cuisine particulièrement.
Qu'est-ce que vous aimez qu'on vous cuisine ?
Le problème, c'est que malheureusement, les gens que j'aimais bien voir cuisiner pour moi sont plus là. Je pense à mon grand-père, ma grand-mère, ma maman. Mais c'est ces plats, moi, c'est, de toute manière, la physiologie du goût, elle s'opère dans l'enfance. Moi, mon repas d'anniversaire favori, c'était du poulet à la crème. J'ai toujours adoré ça, mon grand-père était bresson. Donc un poulet à la crème, ça me va bien. Un gratin dauphinois, j'adore. Une blanquette de veau, on a une façon un peu particulière de la faire dans la famille. Mon arrière-grand-mère était piémontaise. Et donc on la lie au jaune d'œuf et au vinaigre, et on met pas de crème. Et avec des petits morceaux de cornichons et des capres. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien. Finalement, ouais, ce que j'aime, c'est un peu les plats tradis.
Et vous les refaites, ces plats ?
Ah ouais, carrément. Mmh. Je les refais parce que c'est une manière de faire vivre les souvenirs, de faire vivre ces plats. Et puis, comme je vous le disais, moi, j'adore la transmission. Donc, c'est aussi bien faire à manger pour les gens que entretenir ces recettes, qui sont d'ailleurs partagées dans mon dernier bouquin. Bon, qui a 5 ans maintenant. C'est pas pour le vendre, je crois qu'il est même plus en vente. Mais voilà, non, j'ai aucun problème avec ça.
Cet engagement que vous avez, la transmission, etc., votre vision du quotidien, est-ce que c'est une façon aussi de changer le monde ? Comment vous impactez le monde ? Comment vous le changez ? Comment vous essayez de faire en sorte que ça bouge ?
J'essaye de tendre vers ce vers quoi j'aimerais aller. Donc déjà, je pense que ça passe par sa manière d'être. J'essaye d'être comme j'aimerais que les autres soient. Puis, un peu jouer sur... sur les réseaux ou pas les réseaux sociaux, les réseaux, les personnes, pour essayer de faire vibrer les bonnes cordes, pour essayer de faire bouger les choses. D'un autre côté, j'aimerais bien avoir beaucoup plus d'impact. J'ai pas l'impression d'avoir un impact énorme, mais ça peut passer par du témoignage. Voilà.
Vous êtes attaché à Lyon?
Oui,
vous avez l'air, en tout cas.
Ah, oui, je suis très,
déjà,
très attaché
vous
à Lyon.
Vous cherchez un prix Goncourt pour votre bouquin, vous faites un sandwich avec un artiste.
Le prix Goncourt, donc Alexis Génie pour mon bouquin, il se trouve que j'ai pas eu trop de mal à le trouver. C'était le seul écrivain dans mon entourage, c'était mon prof de bio et le voisin du dessus de mes grands-parents. Donc, et accessoirement, sa belle-mère était la meilleure amie de ma grand-mère. Donc c'était assez marrant. Et puis on est devenus très potes avec Alexis. Je suis ultra attaché à Lyon. Mes ex qui n'étaient pas lyonnaises trouvaient que j'étais presque un petit peu trop. Je suis chauvin. Je suis, ma mère est originaire du Vieux-Lyon et mon père de la Croix-Rousse, donc j'ai les deux collines. Pas tant que ça qu'ils les ont, les deux collines, hein, moi, je vous le dis. Et je ne vois aucun intérêt de partir vivre ailleurs qu'à Lyon, en France. Il y a peut-être d'autres endroits, d'autres. Moi, j'adore Turin, par exemple. Je vous disais que mon arrière-grand-mère était piémontaise. Mais alors, en France, très sincèrement, alors c'est sûr, on peut être vers la mer, les machins, mais je trouve qu'on a un rapport poids-puissance en termes de taille de ville, d'offres culturelles, d'emplacement. On se projette ultra rapidement à la campagne, on mange bien, enfin bref, non, c'est trop bien. Lui.
Alors justement, on arrive à proximité de l'aéroport, donc un endroit où on peut aussi se projeter. Vous avez pas mal voyagé, notamment pour certaines émissions, notamment la tournée des popotes. Est-ce que vous appréciez toujours autant les voyages et peut-être que vous pourriez nous en citer un qui vous a particulièrement marqué?
Alors, oui, j'apprécie beaucoup les voyages. Alors, depuis le Covid... j'ai pas fait de long voyage, je suis allé qu'en Italie. Enfin, j'adore l'Italie, donc voilà, je suis allé dans plein d'endroits différents. J'ai découvert, grâce à la tournée des popotes, les destinations froides. C'est vrai que le Nord, c'était pas forcément ce vers quoi je voulais tendre. Et un qui m'a particulièrement marqué, c'est l'Islande. Déjà parce que les paysages sont dingues. On a l'impression de remonter à la création du monde. Enfin, c'est impressionnant. Parce que j'y ai vu des aurores boréales et parce que, alors c'est assez rigolo, je descends de ma chambre d'hôtel, donc on était aux alentours du solstice, pas du solstice du tout, de l'équinoxe de mars, et je prends mon petit déjeuner à côté d'une dame, je ressors, je croise mon ingénieur du son et je lui dis on est d'accord, il me dit oui on est d'accord, c'était Yoko Ono. Moi j'adore les Beatles. Alors pourquoi Yoko Ono? Parce qu'elle elle a une œuvre sur l'île de Vidé qui est en face de Reykjavik, qu'elle allume trois fois par an pour les équinoxes et pour l'anniversaire de la mort de John Lennon, qui est un 8 décembre si je ne m'abuse, ou 7, je ne sais plus trop, mais j'ai retenu 8. Donc voilà, l'Islande, c'est assez rigolo, et ce qui est très marrant, et je voulais lui en parler, mais je ne l'ai pas croisé, parce qu'elle était malade ce jour-là, c'est qu'avec Mathieu Vianney, on a réactivé une de ses œuvres, où on a peint avec de la soupe, et quand il y a eu la rétrospective Yoko Ono au Musée d'Art Contemporain, j'avais mon œuvre avec de la jolie soupe propulsée sur la toile, comme quoi le monde est petit, peut-être pas tout le temps que des hasards.
Et peut-être une cuisine du monde qui vous plaît particulièrement?
Alors, je vais éviter de vous dire la cuisine italienne, mais bon, que je porte particulièrement dans mon cœur, la cuisine libanaise. J'adore ça. Moi, le problème, c'est que j'ai fait une émission au Liban et en une semaine, j'ai dû prendre 4 kilos. Faut pas me laisser partir en vacances là-bas. Je peux pas m'arrêter. Je trouve ça trop, 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 trop bon. C'est tout ce que j'aime parce qu'on est dans la finesse, dans la délicatesse. Avec des produits méditerranéens qui sont pleins de soleil, pleins de richesses. Enfin voilà, je trouve qu'elle a l'image de ce peuple que j'aime par ailleurs beaucoup et auquel je pense souvent parce qu'ils ne vivent pas la meilleure période de leur histoire.
Alors, est-ce qu'il y a néanmoins un voyage rêvé, quelque chose, vraiment un voyage que vous rêvez de faire?
Alors, il y a une destination qui me tente énormément. Alors, c'est très drôle parce que j'y vais la semaine prochaine pour la première fois. C'est l'Écosse. Bon là j'y vais pour un séminaire donc je vais pas rester hyper longtemps, je compte bien y retourner. Il y a l'Écosse, et s'il y a un autre voyage beaucoup plus lointain, c'est le Japon. Ça fait très très longtemps que j'ai envie d'aller au Japon, mais il faut que je prenne le temps parce que si je vais au Japon, je vais au moins y rester 3-4 semaines et me faire j'aimerais au moins me faire Hokkaido et Honshu, l'île principale, et d'un côté très très traditionnel, et je trouve qu'ils ont une vision de la nourriture, de la vie en règle générale, qui est aux antipodes de la mienne, parce que je suis très latin, mais qui est super intéressante.
Et donc vous mangez en permanence pendant vos voyages?
Pas tant que ça, je suis un peu gaffe quand même. Puis moi j'aime manger avec appétit, donc j'ai horreur de grignoter. Les repas, j'y vais à fond les ballons, je mange comme un ogre, mais je snack très peu. Moi, manger des trucs à longueur de journée, ça me plaît pas.
Vous cultivez, vous apprenez, c'est juste pour vous ouvrir l'esprit?
De...
Par rapport à la nourriture que vous pouvez goûter pendant les voyages?
Déjà, j'évite d'analyser, sauf qu'il y a une saveur que j'arrive pas si on ne prend pas de plaisir à reconnaître. Et non, c'est juste le plaisir de goûter et de satisfaire sa gourmandise.
Bien, notre voyage touche à sa fin. Il est l'heure de nous quitter. Encore un immense merci pour son temps passé en notre compagnie.
On part où, du coup?
On ne sait pas.
En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup.
Double Voix, c'est fini. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager et en parler autour de vous. Et rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage.